On va parler aujourd'hui d'emballage. On est dans un monde où l'extérieur compte tellement qu'on dit qu'on est dans le monde de l'image. Et ça, c'est tellement contraire à la nature de Dieu. En parlant à Samuel, le Seigneur lui disait que l'homme regarde à l'extérieur, mais Dieu regarde à l'intérieur, Dieu regarde le cœur. Et le meilleur exemple de ça, en fait, c'est Noël. Si on vous chargeait d'organiser la venue de Dieu sur terre, on mettrait des bouchées doubles. We would redouble our efforts. On essaierait d'appeler les agences de publicité pour en faire un événement fantastique. Quelque chose 100 fois mieux que le concours de Miss France. Ah, il y en a qui ont vu la télé hier au soir. Et en fait, Dieu, lui, l'a choisi de s'humilier. Il a revêtu un costume d'homme. C'est-à-dire qu'il est venu sous la forme humble d'un petit bébé, emmailloté dans ses langes, porté par une jeune femme qui n'était même pas mariée. Et en fait, le trésor de Jésus était caché dans ce petit bébé de la crèche. La crèche, encore une fois, c'était qu'une mangeoire à bestiaux où il y avait de la bave, des ânes et des bœufs. Saliva. C'était pas quelque chose de romantique, peint avec des petits pinceaux sur des santons. C'était la réalité de Dieu sous une forme humble. Et aujourd'hui, on va voir un autre trésor que Dieu met sous des apparences humbles. Si on devait choisir un seul verset pour résumer 2 Corinthiens que nous étudions en ce moment, eh bien, nous y sommes arrivés. J'aimerais qu'on lise à partir de 2 Corinthiens 4, verset 7. Je lis dans la version La Colombe. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespéré, persécuté mais non abandonné, abattu mais non perdu. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, mais la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Quel est ce trésor dont parle Paul? Il suffit de remonter au verset précédent. C'est la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Autrement dit, c'est l'évangile glorieux de Christ. Il y a quelques semaines, à la montagne, nous avons entendu parler de l'argile et du potier. Pour Paul, il est probable que parler de vase de terre, ça lui rappelait un épisode bien connu de l'Ancien Testament. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de la victoire de Gédéon sur les Madianites? L'ange de l'Éternel lui était apparu pour lui annoncer qu'il allait délivrer Israël de l'emprise de ces Madianites. Un peuple qui les persécutait, qui venait prendre leur récolte une fois qu'il les avait fait grandir. L'ange de l'Éternel lui avait dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Mighty warrior. Gédéon avait dit « Oh, mais non, il doit y avoir erreur. Vous avez frappé à la mauvaise porte. Je suis le moins connu, le moins qualifié, de la famille la plus pauvre, de la tribu la plus insignifiante d'Israël. En fait, l'Éternel avait bien choisi la chose la plus faible. Et on le sait parce que plus loin, il est expliqué que en rassemblant les soldats d'Israël, Gédéon avait fini par avoir 32 000 soldats. Et l'Éternel, Dieu, dit à Gédéon, tu en as trop. C'est trop pour que je livre Madian, cette peuplade, à Israël. Parce que Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a sauvé. Donc il lui dit, demande à ceux de tes hommes, ceux qui ont peur. Il y en a 22 000 qui disent qu'ils ont peur. Il les renvoie chez eux. Et l'Éternel dit, 10 000, c'est encore trop. Et c'est là qu'il les fait boire de l'eau de la source. Et la plupart se mettent à genoux et trempent la tête dans l'eau et boivent goulûment. Mais il y en a 300 qui prennent l'eau dans leurs mains pour pouvoir toujours rester vigilants sur ce qui se passe autour d'eux. Et ils lapent l'eau dans leurs mains. Dieu dit à Gédéon, c'est bon, les voilà tes hommes. Ça fait 300 contre 120 000. Il faut avoir la foi. Hein. Dieu leur donne un plan. Il leur dit de prendre des pots d'argile, des cruches en quelque sorte, d'y mettre une torche ou une chandelle à l'intérieur, de prendre de l'autre côté, de l'autre main, une trompette, un cor, et d'aller pendant la nuit encercler le camp des Médianites. À 300, pour encercler 120 000, il devait être assez éparpillé. Mais soudain, au signal de la trompette, ils se mettent tous à souffler dans leur corps, dans leur trompette. Les ennemis se réveillent paniqués, parce que normalement il n'y avait que quelques trompettes par corps d'armée. Mais là il y a des trompettes pour chaque homme, ça fait 300. Ils voient les lumières qui commencent à briller tout autour des montagnes qui les entourent. Et ils paniquent complètement, ils commencent à se battre dans le noir les uns les autres, ils s'entretuent. Un auteur dit qu'en fait, si nous vivons en communion avec Jésus, il n'a pas besoin de grand nombre, juste quelques-uns qui veulent vraiment la gloire du Seigneur. Et il peut même conduire les ennemis de Christ à se battre entre eux. Est-ce qu'on n'a jamais prié pour que les musulmans et les bouddhistes s'entretuent ? C'est parce que le Nouveau Testament nous invite à faire. Non, mais c'est pas de prier, c'est simplement de suivre le Seigneur de tout notre cœur. Il va prendre soin de nos ennemis, comme il l'entend. Et donc ces cruches avec la lumière à l'intérieur, c'est le symbole qui est utilisé par l'association des Gédéons pour dire que eux aussi ils ont ce trésor dans un vase de terre. La parole de Dieu est souvent décrite comme un trésor dans l'Ancien Testament. Psaume 119, il est dit que la parole vaut mieux que 1000 objets d'or et d'argent. Le psaume 19 dit que les ordonnances de l'Éternel sont plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin. Mais normalement, lorsqu'on a un trésor, on le cache, on le protège. En français, il y a un mot qui dit thésauriser. Qui veut dire en fait cacher un trésor. Mais c'est le même mot que trésor. Pour nous, un trésor, ça veut dire qu'il faut le cacher. Mais ce trésor que Dieu nous confie, au contraire, il est destiné à être révélé, il est destiné à être ouvert à tous. Et pour des aveugles, rappelons-nous que la lumière est un trésor. Un danger pour nous, c'est de devenir insensible à la richesse du trésor. L'Évangile, Noël, Pâques. On connaît. On a vu. Et on a revu. Et entendu des sermons. On le sait. Et on devient insensible à la richesse du trésor. Paul, lorsqu'il parlait des vases de terre, il savait aussi que Corinthe, c'était le Valoris de l'époque. Les poteries de Corinthe étaient connues dans le monde antique. Qu'est-ce que c'est que ce vase de terre? À l'époque, la vaisselle en terre cuite, c'était pas quelque chose de précieux. Si c'était un peu fendu, ébréché, abîmé, on l'a jeté. Le verset 10 nous montre clairement que c'est notre corps, ce vase de terre. Nous avons un trésor dans notre corps. Bien sûr, ce n'est pas seulement le corps physique, mais c'est notre corps, notre âme, notre esprit. C'est toute notre humanité. Dieu a choisi de mettre ce trésor de son amour, de cet évangile, cette bonne nouvelle glorieuse, dans notre humanité faible, pécheresse. C'est pas pour dénigrer l'homme, mais c'est pour faire une juste comparaison entre l'homme et Dieu. Nous rappeler que nous sommes que des vases de terre, ça nous rappelle que nous sommes des êtres faibles, fragiles. La pression des épreuves peut nous briser. Il n'est pas question de faïence ou de porcelaine, de fine china. Non, de vases de terre, en terre cuite. Terracotta. De l'argile chauffée. Et chimiquement, on retrouve tous les éléments de la poussière du sol dans notre corps. En fait, si on le décompose, on retrouve tous les éléments qu'on trouve dans la poussière du sol. Il y a des biochimistes qui ont dit qu'en fait, une fois que le corps est réduit en cendres, tout ce qu'on pourrait retirer de la vente de ces cendres, c'est à peu près, c'est moins de 10 francs. Un peu de carbone, un peu de potassium pour ceux qui mangent des bananes. Ça ne devrait pas nous surprendre, en fait. L'Éternel, il est dit dans la Genèse, a pris la poussière du sol. Pour former l'homme, il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Et puis avec Christ, il a donné à ceux qui croient en lui le trésor de l'évangile. On pourrait penser que c'est un peu une fantaisie divine. Peut-être que Dieu s'est dit, tiens, on va rigoler, on va mettre ça et puis on va voir ce que ça donne. Avec les anges qui disent, oh non, ça, non, Seigneur, non, ça va pas marcher ça. Mais c'est bien dans un but précis, dans un dessein bien défini que Dieu a fait ça. Afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dieu a fait les choses de telle façon que si quelque chose se passe avec nous, les choses spirituelles, matérielles, sociales, où on voit une puissance formidable. Dieu veut qu'il sache tout de suite que ça ne vient pas des hommes, mais de sa puissance à lui, le Seigneur. Le dessein de Dieu, Paul nous l'avait rappelé dans un sermon que vous pouvez toujours écouter, c'est de manifester sa gloire. Le monde essaye de nous glorifier, faut voir les remises des Oscars, les élections de Miss France. L'homme essaye de se glorifier. Qui est digne de contenir la gloire de Dieu? Quelqu'un disait, la personne la plus pure n'est pas digne, n'est pas assez pure pour contenir cette gloire. La personne la plus intelligente n'est pas assez intelligente. La personne la plus aimante n'est pas assez aimante. La personne la plus riche n'est pas digne. C'est tellement important de le comprendre. Il n'est pas question de se complaire dans notre faiblesse, mais de la reconnaître. On explique qu'il y avait une fois quelqu'un qui était voir D.L. Moody, le célèbre évangéliste. En lui faisant remarquer qu'il venait de faire 34 erreurs grammaticales dans son sermon. Et sa réponse humble avait été, excusez-moi, j'utilise le peu de grammaire que je connaisse pour la gloire de Dieu. Mais vous, que faites-vous de votre grammaire? Dieu veut manifester sa gloire, son excellence, sa perfection. Chose qui est terrible avec les récipients, lorsqu'on essaye d'y mettre quelque chose de précieux, une eau fraîche de source en montagne, si je la mets dans ma bouteille spéciale de plastique pour la montagne, quand je la prends bien fatiguée en transpirant quelques heures plus tard, c'est plus l'eau pure, c'est l'eau au goût de plastique. Gardons-nous de corrompre l'évangile. Restons purs et propres pour que l'évangile puisse être pur et propre. Le Seigneur me rappelle souvent la saleté qu'il y a en moi. The dirt. Me. L'autre soir, je suivais un cycliste en voiture. Et j'étais un peu énervé parce qu'il ne se rangeait pas sur le côté droit. Il faisait nuit, j'ai mis mes codes un peu plus près de lui pour lui donner la chance de réaliser qu'il y avait quelqu'un derrière qui était pressé. Il a manifestement voulu rester au milieu de la route. Il s'est mis sur la droite en passant sur un petit pont d'âne parce qu'il ne voulait pas prendre la bosse. Et donc j'ai pensé que j'allais pouvoir le passer sur la gauche, mais tout de suite il est revenu. Et en fait j'allais tourner 10 mètres plus loin et lui a commencé à me faire signe un peu rageusement de pour qui je me prenais, de ralentir. Alors j'ai klaxonné rageusement. Je l'ai dépassé. J'ai tourné à droite, lui il a continué tout droit. Et je l'ai vu dans mon rétroviseur en train de faire des signes. Puis je me suis dit, ben c'est chouette. Il y a un poisson sur ma voiture. Il y a marqué Calvary Chapel. J'espère que cette personne est myope. Et le Seigneur m'a... Et après, j'étais tellement déçu de moi-même. J'essaye d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu et je me mets en colère. Les gens brandissent le poing. Pas plus tard que ce matin, il y a encore eu autre chose. Ce qui est bien, c'est que si on contient vraiment la gloire de Dieu en nous, à ce moment-là, il va pouvoir nous briser pour qu'elle brille. Et c'est l'histoire du ministère de Paul. Verset 8, il décrit en termes militaires la difficulté de son ministère, d'être un témoin de Christ. Alors on peut dire ça, c'est parce qu'il était un super apôtre. Mais je vous affirme que si on essaye de vivre pour Christ, tout ça, ça s'applique à nous aussi. Nous sommes pressés de toute manière, désemparés, persécutés, abattus. Ça, c'est la faiblesse du pot. On est stressé de tous les côtés. On est désemparé, c'est-à-dire qu'on est démoralisé. On est persécuté. Traqué par nos adversaires. Abattu, c'est-à-dire jeté à terre. Ça, c'est ce que le pot peut accomplir. Mais il y a la puissance de Dieu en Paul. Il y a la puissance de Dieu en vous. L'Esprit Saint habite le temple de votre corps. Et vous, si vous êtes pressé par sa puissance de Dieu, vous n'êtes pas écrasé. Vous êtes démoralisé, mais pas désespéré. Vous êtes persécuté, mais pas abandonné. Abattu, mais pas perdu. Autrement dit, à terre, mais pas chaos. Pas sans connaissance. You haven't fainted. You're still alive. Et le paradoxe, c'est qu'il faut la faiblesse pour que la puissance se manifeste. Et ça, nous les hommes, nous les femmes, on n'aime pas. Nous, on veut la puissance de Dieu dans nos vies. Amen. Mais on veut que ça se passe dans des circonstances tranquilles. On veut que ce soit calme. Que nos vies soient régulières. Sans histoire. Protégées. Pas de difficultés, pas de dangers. Mais la puissance de Dieu, d'accord ? Et Paul, il explique qu'on n'est pas protégé des problèmes de la vie en tant que chrétien. Contrairement à ce qu'enseignent certains mouvements aujourd'hui, si vous êtes chrétien, vous ne serez plus jamais malade. C'est faux. On est des vases de terre. Bien sûr, le Seigneur peut et veut guérir physiquement, moralement, spirituellement. Il veut notre prospérité, avant tout notre prospérité spirituelle. Il peut choisir d'en bénir matériellement, physiquement, comme il veut. Regardez un verset dans Colossiens 1, chapitre 1, verset 11. Il est dit, Paul, encore lui, fait une prière et dit à l'adresse des Colossiens, « Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse. » Wow.
Colossiens 1:11. Chapter 11, verse.
Just the beginning. Devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse. Quand on lit ça, on se dit pourquoi faire? Pour faire des grands miracles, faire des choses spectaculaires. Non, Paul continue, pour que vous soyez tout à fait persévérants et patients. La puissance de Dieu, elle doit se manifester par elle-même. En nous. Par nous. Mais elle ne doit jamais nous attirer la gloire sur nous. Paul continue au verset 10 dans 2 Corinthiens 4. On revient à 2 Corinthiens. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. On a vu le paradoxe du trésor dans le vase de terre. Il continue ici avec le paradoxe de la mort de Jésus qui manifeste la vie de Jésus. Porter la mort de Jésus, ça veut dire subir toutes ces pressions pour la cause de Jésus. Qui sont pour Jésus. Il faut faire une distinction, bien sûr, entre les épreuves qui nous tombent dessus parce que nous suivons Jésus et celles qui nous tombent dessus parce que nous ne le suivons pas. Il y a des épreuves qui viennent comme un jugement, comme conséquence automatique du péché. Mais là, Paul dit que, en fait, il est prêt à souffrir toutes ces choses comme Jésus a souffert. Et nous verrons, poursuivant 2 Corinthiens, qu'il savait de quoi il parlait quand il parlait de souffrance. Le Seigneur lui avait envoyé un message, je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom, dans Actes 9. Comme Pat Lazovitch avait expliqué, pour que le parfum se répande, il faut que le vase soit brisé. Paul, son but, il nous le raconte dans Philippiens, il nous l'explique dans Philippiens, c'était de connaître la puissance de sa résurrection. Et ça, on veut tous cette puissance. On veut cette vie de Jésus. On veut cette puissance qui spectaculaire. Mais Paul poursuit en disant que son but, c'est de connaître non seulement la puissance de sa résurrection, mais la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Si nous voulons la puissance de la résurrection, il nous faut d'abord mourir. Mourir à nous-mêmes. Mourir à nos ambitions. Mourir à nos désirs de gloire. À notre désir d'être reconnu parmi les hommes. C'est le message de Jésus dans Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Encore un grand paradoxe. Matthieu 16, 24. Jésus, quand il était sur la croix, ce n'était pas un endroit impressionnant de puissance. Il n'y avait pas les applaudissements de la foule qui écoutait ses dernières paroles. La croix, c'était un endroit de faiblesse, de rejet, d'abandon, d'obscurité. Et en même temps de confiance à Dieu. Jésus remettait son âme à son Père. Si je veux cette puissance dans ma vie, il faut que je laisse Dieu briser le vase de terre. Est-ce que je suis prêt à tout lui abandonner ? À le servir sans attendre aucune reconnaissance des autres. Dieu est maître, il est souverain, il peut redonner sa gloire à ceux qui la lui donnent ainsi. Et ce qui est curieux, c'est que même des fois le monde reconnaît cette puissance supérieure, cette puissance divine dans certains hommes et certaines femmes. Martin Luther, qui était complètement rejeté, a osé se tenir tête au mensonge et prêcher la vérité de la parole de Dieu. Il est maintenant un des noms les plus célèbres de l'histoire. Mais quand il faisait ça, il ne cherchait pas à voir si son nom serait dans les dictionnaires. Quand Mère Teresa est allée vivre dans les bidonvilles de Calcutta, elle ne cherchait pas à avoir le prix Nobel. Soyons prêts à être brisés pour la gloire de Dieu. Le reste du passage que nous avons lu parle de comment on manifeste la gloire de Dieu. La mort, verset 12, agit en nous, mais la vie en vous. Le service fait dans l'humilité, dans le sacrifice, porte du fruit. Paul, s'il était si passionné par son message, c'est parce qu'il croyait. Il cite un psaume, le psaume 116, et il dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». N'essayez pas de convaincre si vous n'êtes pas convaincu. Ça ferait du tort au message. Demandez au Seigneur de vous briser pour que vous ayez une conviction de son message de vérité. Paul, il a une grande confiance qu'il va être ressuscité par l'Esprit de Dieu.
Risen.
Et qu'il paraîtra avec tous ses Corinthiens en la présence de Dieu. Encore une fois, pour être capable de subir les brisures du vase de terre, il faut avoir la perspective éternelle. Donc Paul, son ministère si difficile, a un but intermédiaire, c'est le service des hommes, de les amener à Dieu. Mais verset 15, son souci majeur, son but ultime, c'est la gloire de Dieu, encore une fois. Verset 15, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Il voulait que des remerciements vers Dieu montent à cause de tout ce qui allait se passer parce que son message était diffusé, répandu. On dit que pour voir quel est le parfum d'un sachet de thé, il faut verser dessus de l'eau bouillante. À ce moment-là, le parfum est libéré, le goût est révélé. Nous sommes appelés à vivre pour Dieu de façon à ce que les épreuves fassent répandre ce bon parfum de l'Évangile, de l'amour de Dieu qui est venu mourir pour nos péchés. Nous sommes appelés à vivre de façon à ce que lorsque les gens nous voient vivre, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens? C'est des gens ordinaires, ils ne sont pas plus instruits, pas plus beaux, pas plus forts que la moyenne. Mais ils abordent la vie avec d'une façon incroyable. Et les gens se disent, j'y comprends rien, mais cette puissance de vie qu'on voit en eux, ça ne vient pas d'eux, mais de Dieu. Un trésor dans des vases de terre. Dernier point, c'est que c'est un message complètement libérateur. Si je reconnais que je suis qu'un vase de terre, que je me dispute par impatience avec un pauvre cycliste, je ne vais plus essayer de paraître. Je ne vais pas faire croire que je suis de la porcelaine de Limoges, alors qu'en fait je suis fait avec de la glaise. Je ne vais plus essayer de faire des efforts pour Dieu. Je vais le laisser agir en moi. Je vais le laisser briller par ma vie. Pour sa gloire. Amen. Seigneur, merci pour ce message glorieux de l'Évangile. Merci que tu as tout prévu, Seigneur. Merci que tu ne nous demandes pas de devenir des vases en faïence sophistiqués. Raffiné. qui nous demande simplement de te contenir, Seigneur. Seigneur, remplis-nous de ton évangile, de ton Esprit Saint, pour qu'il puisse éclairer ceux qui sont autour de nous. Qu'ils réalisent qu'eux aussi ne sont que des vases de terre. Et qu'il y a un Dieu qui les aime. Et qui lui-même s'est humilié en homme pour venir les sauver. Seigneur, aide-nous cette semaine à ne pas être des vases qui ont un mauvais goût, un arrière-goût de péché. Qui donne un goût amer à l'évangile. Seigneur, apprends-nous à te faire totalement confiance. Et sois glorifié dans nos vies, Seigneur.